Bonjour, bienvenue à tout le monde. Bienvenue Madame la Doyenne de la Faculté de droit de l'Université de Genève, Monsieur Somaruga, l'ancien président du Comité international de la Croix-Rouge, et surtout la famille Moignet. Merci d'être là et d'avoir participé à l'organisation. Je peux dire que c'est une joie d'être dans votre villa tous les jours et d'enseigner ici et de faire les recherches. Je vais tout de suite passer la parole à la professeure Paula Gaiter qui a organisé cette journée et qui va introduire un peu le débat et les thèmes qu'on va aborder.
Merci Andrew, merci et bienvenue à tout le monde. Je n'ai pas préparé un discours, mais je voulais d'abord remercier Roger Durand, qui est vraiment le promoteur de cette initiative, de cette belle initiative, pour célébrer, on dit, le 150e anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge. Et il a bien choisi, je pense, cette ville à Moignet pour cette cérémonie, parce qu'en effet, on peut dire qu'un peu la ville à Moignet était partie de la Genève humanitaire et un des lieux, je pense, historiques où la Genève humanitaire a fait ses premiers pas. Et aujourd'hui, alors, grâce à Roger Durand, nous avons organisé la journée en deux parties. Nous avons d'abord la conférence de M. Pierre Gentil et après, nous allons sortir dehors pour le dévoilement de la plaque qui va constituer le signe tangible du rôle historique de cette belle villa. Après, on va rentrer à nouveau dans cette salle pour regarder une exposition photo de la ville à Moignet et prendre un verre ensemble. Et avant de donner la parole à M. Pierre Gentil et dire qu'il l'introduire, je voulais vous lire vraiment une page de Marcel Dugenon, le troisième combattant, qui était publié par le CSR en 1947. Marcel Dugenon, c'était un délégué de la Croix-Rouge. Et dans son dernier chapitre, qui s'intitulait « C'est le troisième combattant » ou « Le troisième combattant, c'est le délégué de le CSR », il commence avec ces mots. Le CSR s'est maintenant installé de façon permanente dans des grands hôtels de Genève qui avaient été mis à disposition pendant la guerre. Une intense activité règne dans le bureau de l'ancien Carlton, sur lequel flotte le drapeau de la Croix-Rouge. Voilà le grand building que j'imaginais lorsque j'ai reçu pour la première fois, à l'hôpital de Arsenen, l'appel du comité international. C'est pourtant vers la ville Moignet que je suis revenue ce soir. Au milieu de son parc tranquille, la petite maison d'où j'ai parti il y a 12 ans pour l'Abyssinie est aujourd'hui déserte. Je suis seule dans cette salle, presque nue, où l'on a laissé la grande table ovale recouverte de son tapis vert. Au mur, un tableau retrace le geste qui donna naissance, il y a moins d'un siècle, à la Croix-Rouge. C'était un soir de la bataille de Solferino, le 24 juin 1859. L'armée de François-Joseph avait fui. Les Français avaient remporté la victoire. Ils enterraient leurs morts et soignaient leurs blessés. Les blessés autrichiens n'avaient à attendre aucune aide. Même vaincus, désarmés et sanglants, c'étaient toujours des ennemis. Un homme qui n'appartenait ni au camp des vainqueurs, ni au camp des vaincus, un homme qui ne connaissait parmi tous ses soldats ni amis ni ennemis et refusait de voir leur uniforme, vint vers ses mourants et soignait le blessé. Ce geste eut une répercussion si grande qu'il est devenu naturel non seulement pour les millions d'adhérents qui font aujourd'hui partie de la Société nationale des Croix-Rouges, mais pour tous les hommes et pour tous les combattants. Alors, la ville à Moignet n'est plus déserte, bien sûr, pas seulement parce que vous êtes ici parmi nous ce jour-là pour célébrer la naissance de la Croix-Rouge, mais parce que c'est devenu aussi, je pense, la maison de droit humanitaire et droit de l'homme ici à Genève pour les étudiants, les chercheurs qui sont ici et viennent de presque le monde entier. Nous recevons chaque année des étudiants qui viennent de quatre coins du monde et grâce à la ville de Genève, nous sommes tellement heureuses d'avoir cette possibilité avec cette ville historique qui nous inspire tous les jours. Merci. Alors maintenant, nous avons le plaisir d'entendre Pierre Gentil qui va nous donner une conférence sur mission médicale dans les conflits armés, quelle protection du constat à l'action. Monsieur Pierre Gentil a commencé comme délégué du CSR en 1996 et il a eu différentes fonctions. Il était 11 ans sur le terrain. Après, il est devenu chef de l'unité de la protection de la population civile pendant 5 ans et maintenant il est chef du projet Healthcare in Danger. Vous avez la parole. Merci.
Dans votre introduction, vous dites que le geste médical neutre et impartial est devenu naturel. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons ce projet, qui est un projet qui adresse justement les risques d'insécurité sur la mission médicale en situation de violence armée. Et c'est un projet, on va le voir, qui a maturé pendant un certain temps, est maintenant en route, mais qui essaye d'adresser vraiment une question qui concerne l'ensemble des acteurs humanitaires, mais au-delà aussi l'ensemble des fournisseurs de soins, que ce soit les services publics, le ministère de la Santé, différents pays, ou que ce soit simplement les privés qui travaillent dans différents quartiers de villes affectées par la violence. Dans l'exposé que j'aimerais faire, j'aimerais vous parler en fait d'abord de la problématique, quel était le point de départ, quel est notre constat qui est le fondement en fait de ce projet, ensuite un peu de la base légale, parce qu'effectivement si vous parlez au CICR, il faut toujours une base légale quelque part, donc là on va vous faire un petit cadre de cette base légale, et le problème n'est pas dans la base légale. La base légale est bonne, le problème est vraiment ailleurs et dans son application. Et je vais vous parler un tout petit peu du projet, alors je vous rassure, je ne vais pas vous parler trop de tous les aspects procéduraux, mais juste pour vous donner un peu une idée de quoi il s'agit, comment est-ce qu'on conçoit un projet sur 5 ans pour adresser une telle thématique, et ensuite venir un petit peu à des résultats préliminaires. Nous sommes au début du projet, donc évidemment, pour l'instant, il s'agit plutôt de résultats préliminaires. Je suis un peu désolé pour les gens qui ont des difficultés à voir le PowerPoint. Je vais essayer, dans la présentation, de un maximum présenter ce qui est sur les différentes slides. Alors, au départ de tout ce projet, il y a en fait une étude que le CICR a menée. C'est un médecin au CICR qui a pris sur lui, vraiment au départ, de créer un peu une méthodologie pour travailler sur une collecte d'informations sur la violence qui affecte les services de santé. Et cette étude a vraiment démontré l'ampleur du problème. Un nombre assez impressionnant, 600 actes de violence recensés sur 3 ans, dans une méthode qui n'était pas exhaustive. Donc c'est vraiment un petit nombre par rapport à tout ce qui se passe. Mais déjà un nombre qui nous a permis de voir un petit peu quelles étaient les grandes tendances lorsqu'on parle d'attaques sur les soins de santé. Et ça a vraiment été le déclencheur, qui a permis de dire, on est au-delà de l'anecdotique, on est au-delà d'événements frappants. Peut-être vous avez vu les nouvelles hier soir avec cet événement absolument tragique au Nigeria de 9 personnes impliquées dans les campagnes de polio qui ont été assassinées. Donc ça, on peut imaginer l'ampleur des conséquences de ce type d'acte, non seulement évidemment pour les personnes tuées et leurs familles, mais pour l'ensemble des enfants dans la région. Ça a des conséquences absolument en cascade. Donc il y a énormément d'événements de ce type-là. Mais l'idée, c'est un peu de voir, au-delà d'événements partiellement par là, est-ce qu'on arrive à voir vraiment des tendances? Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose qui se dégage si on se penche sur plusieurs années de violence? Alors, qu'est-ce qu'on a vu un petit peu comme thème récurrent dans ces violences? On a vu des problèmes liés à des entrées d'hommes armés dans des structures hospitalières. On a vu beaucoup de problèmes liés à des kidnappings et meurtres de personnel médical. Une thématique qui revient régulièrement, des délais dans les contrôles, les checkpoints, au-delà de ce qui est nécessaire. Donc il est normal dans un checkpoint qu'il y ait un contrôle, ça n'entend pas que les ambulances passent sans être contrôlées, mais là on parle de délais qui ont une conséquence sur les soins de santé, plusieurs heures de délai. On parle beaucoup de menaces, de pressions de la part d'hommes armés, qui peuvent être autant gouvernementaux que de groupes armés. Et là, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas d'une problématique qu'on peut associer à l'un ou l'autre des mouvements armés aujourd'hui. Pas mal de cas, malheureusement, d'ambulances détruites, attaquées, volées pour d'autres usages. Et là, on a eu alors, toute une série de cas. Le CICR lui-même ayant été victime d'une attaque à la bombe en Irak. Et l'attaque s'est faite avec une ambulance qui avait été volée. Finalement, pas mal de cas liés à un manque de précaution de la part des armées. Pas forcément volontairement une attaque contre les hôpitaux, mais un manque de précaution qui font que lorsque les combats se déroulent à proximité d'infrastructures de santé, et bien ces infrastructures de santé ont des dommages collatéraux assez importants. Et quelques cas où c'était vraiment directement visé, mais souvent un manque de précaution et de considération. Beaucoup de vols dans des structures, des petites structures, des prises carrément et utilisation de centres de santé comme centre de commandement ou comme lieu de combat. Alors ça, on a aussi vu plusieurs cas. Et plus généralement aussi une insécurité liée à l'alliance armée qui font que des missions médicales qui doivent sortir, que ce soit des campagnes de vaccination, dont on parlait avant, ne sortent plus, ne vont plus dans des zones reculées dans pas mal de pays. Donc ça, c'était un peu les thématiques récurrentes dans différents conflits. Ce n'est pas un contexte en particulier. Bien sûr que dans un contexte, vous aurez peut-être plus de l'un, moins de l'autre. Donc un contexte par contexte, l'image peut varier. Mais si on met tout ensemble, on arrive vraiment à ce constat. Quelques exemples. À Fallujah, en 2004, une ambulance totalement détruite, avec le chauffeur, les infirmières et les blessés qui allaient à l'hôpital tués. Plus vieux dans l'histoire, pour montrer aussi que ce n'est pas forcément un phénomène nouveau, Sarajevo, la salle d'opération détruite par un bombardement. Et on aurait pu faire une galerie d'images assez continue. On a, avec le projet, décidé également d'avoir une attention un peu plus systématique sur ce type d'incident. Donc une partie du projet, ce n'est pas le cœur du projet, mais disons c'est une partie qui nous permet d'avoir une base un peu plus solide dans nos discussions. Une partie du projet est de demander aux délégations du CICR de ramener l'information qu'ils ont sur toutes les attaques liées à la mission médicale. Travail de monitoring qui se fait usuellement par le CICR. Et donc là, on fait une étude dans 22 pays. Et on a les chiffres pour janvier 2012, quand on a commencé, jusqu'à novembre. On n'a pas encore les chiffres de décembre, donc ce n'est pas encore les chiffres définitifs 2012. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà à peu près 880 incidents de violence qui ont affecté les services de santé en moins d'une année. C'est un chiffre quand même assez considérable. Si vous pensez que chaque incident peut avoir des répercussions, non seulement pour les personnes victimes, mais pour l'ensemble d'une population dans lesquelles ces services ne seront plus disponibles. Ce qu'on voit dans ce graphique, c'est essentiellement qui sont les victimes de ces actes de violence. Et la grande part du gâteau que vous avez ici en rouge, c'est en fait des personnels locaux, privés, publics, mais personnels locaux. Les volontaires de la Croix-Rouge ne sont pas compris dans cette catégorie-là. Là, c'est vraiment tous votre médecin de famille, votre hôpital de proximité. Ça, c'est le gros des victimes de ces violences. Vous avez ensuite la tranche verte, qui est tout ce qui est le mouvement de la Croix-Rouge du Croissant Rouge. Et dans certains pays, ça dépend évidemment de pays en pays, mais dans certains pays, sous les sociétés nationales, sont très présentes pour l'évacuation des blessés, prennent pas mal de risques. Donc finalement, ils ont aussi une part relativement importante d'attaques dont ils sont victimes. Et puis vous avez une partie assez importante où on n'a pas d'informations. Et finalement, les internationaux, y compris le CICR, c'est finalement une petite partie. 5% de ces attaques touchent les milieux internationaux. Et encore, on peut penser que c'est surreprésenté parce qu'on a tendance à être au courant de toutes ces attaques, alors qu'évidemment, beaucoup d'autres, touchant le personnel local, l'information ne voyage jamais. Donc même ces 5%, probablement, si l'image réelle, on serait près de la moitié, probablement, j'imagine, assez volontiers. Donc ça montre, vraiment, on ne parle pas d'un problème d'accès humanitaire. On n'est pas en train de parler de l'accès des humanitaires. En bataille, on est en train de parler vraiment du respect des soins de santé qui existent à disposition. Si on regarde un petit peu pour cette année les catégories de victimes qui ont été affectées, c'est en fait en grande partie le personnel de santé directement. Dans un incident, évidemment, on peut imaginer, il y a différentes personnes qui peuvent être atteintes, donc la plus grande partie c'est le personnel. Il y a aussi comme une partie assez importante où c'est les patients eux-mêmes. Les ambulances sont stoppées justement à un checkpoint et ne passent pas et le patient meurt faute de soins. Pire encore, dans certains endroits, les patients sont descendus des ambulances et tués, achevés, voire on va les chercher dans les hôpitaux. Des blessés de guerre et un nombre assez important quand même de personnes autres. Ça peut être des familiers, ça peut être des personnes qui se trouvent là un peu par hasard, donc toute une série évidemment de victimes collatérales. Par rapport au personnel médical, donc on a à peu près 360 actes pour l'instant qui touchent vraiment le personnel médical directement. Quels sont les événements les plus marquants? Il s'agit essentiellement de menaces et de pressions pour que les gens partent, n'aillent plus dans un endroit, ne soignent pas telle personne, mais soignent plutôt telle autre. Et le reste après se répartit entre des kidnappings, des meurtres, des tabassages, voire des vols, etc. Voilà, bah, on va pas rentrer dans toutes les statistiques, mais ça vous donne un peu quand même une dimension du problème. Il s'agit d'un problème assez large. Là, on parle de 22 pays dans lesquels on fait cette collecte de manière relativement systématique, mais de nouveau, beaucoup de choses nous échappent. Hein. Et le but n'est pas d'avoir l'image complète, le but est d'avoir une compréhension des grands phénomènes. Je vous parle de cette étude, là, un peu vite. Je vous parle de cette étude, parce qu'en fait, c'est un phénomène qui est important, que tout le monde reconnaît. Vous n'avez qu'à regarder les nouvelles, vous voyez quand même pas mal de pays dans le monde où effectivement les soins de santé sont affectés par les violences et par les conflits. Maintenant, il y a très très peu d'études sur cette question. Donc c'est vraiment un domaine qui est sous-recherché, sous-connu, un peu de documentation, à part sur des cas particuliers, l'hôpital de Vukovar, bon, il y a un certain nombre de cas évidemment sur lesquels, alors là on a une connaissance approfondie, mais si on parle du phénomène, on a relativement peu. On a relativement peu. C'est un phénomène qui est reconnu par WHO depuis 2002, déjà assez fortement. Plus récemment, WHO a aussi pris une résolution par rapport à la volonté d'avoir la statistique. Alors pour l'instant, c'est encore une lettre morte. On espère bien que ça deviendra réalité. Donc, on voit qu'il y a une reconnaissance, mais pour l'instant, pas encore vraiment beaucoup d'action autour de cette question. Et surtout, ce qui est difficile à mesurer, c'est les effets sur les populations. Parce qu'au-delà de l'incident, de nouveau, qui touche les personnes directement affectées, prenons l'exemple de la campagne de polio, donc on peut imaginer, évidemment, vous avez 9 victimes, mais au-delà de ça, vous avez les zones dans lesquelles vous n'aurez pas de vaccination. Combien d'enfants vont avoir la polio? Et il y a une corrélation très claire dans les 3 pays où la polio est encore assez présente, avec les attaques contre la mission médicale, y inclus contre les vaccinateurs. Donc là, la corrélation est là. Donc, quel effet il y a sur la population? Ça, pour l'instant, c'est des domaines. Évidemment, on peut tous avoir des suppositions, mais on n'a pas de recherche claire. Vous avez d'autres pays où l'insécurité générale liée à le conflit fait, et le nombre de kidnappings, etc., fait que tout un corps médical, qui n'a pas forcément été directement victime d'un incident, mais juge qu'il devient plus prudent, vu ses qualifications, d'essayer de trouver un travail ailleurs, hein, en général, plutôt par ici, va bouger en Europe, aux États-Unis ou dans des pays voisins plus sûrs, et va quitter finalement ces pays. Donc là, vous avez aussi une couverture médicale dans les pays qui va s'amoindrir. L'Irak, la Syrie étaient des pays qui avaient une couverture médicale relativement bonne avant le conflit. La Syrie avait même considéré comme, dans la région, un modèle de couverture médicale. Donc on ne parle pas forcément de pays qui partent avec une situation difficile, on parle de pays qui peuvent avoir à la base une couverture médicale excellente. Et le résultat du conflit, évidemment, cette couverture se désagrège. Alors qu'on pourrait imaginer le contraire, on pourrait imaginer, si on était dans la logique décrite de manière, on devrait imaginer que lors du conflit, la couverture médicale s'améliore. Il y a encore plus d'efforts, plus de volontaires, donc on devrait être dans une logique d'amélioration avec un pic de couverture. Alors on voit exactement le contraire. Comme j'ai signalé, les personnes affectées par ce type de violence, c'est autant les patients que le personnel médical, que les transports et les infrastructures. Donc là, on a un peu l'ensemble de ce qui constitue la mission médicale, les services de santé, des infrastructures, aux transports, aux personnes. On voit qu'il y a des incidents qui touchent l'ensemble de la chaîne. Et comme j'ai mentionné, ça concerne l'ensemble des acteurs de santé. Et ça, on verra, ça a une importance par rapport au projet que le CICR va mener. Cette constatation qu'il ne s'agit pas d'un projet pour le CICR, pour nos activités à nous, il ne s'agit pas d'un projet non plus pour les activités du mouvement Croissant Rouge, Croix Rouge. Bien sûr que ça en fait partie, mais il s'agit d'un projet qui va au-delà, qui essaie vraiment d'englober l'ensemble des fournisseurs de soins. Alors la base légale elle est assez complète finalement, et dans les conflits, et dans les situations couvertes par les droits de l'homme, les personnes blessées, malades, ont droit d'être traitées avec humanité, ont droit à une protection spécifique, ils ne doivent pas être laissés sans assistance médicale, donc il y a un devoir d'aller chercher les blessés au sein des armées. Il y a un devoir d'impartialité, de ne pas distinguer dans les traitements. C'est seulement l'éthique médicale et une logique de triage médical qui doit faire des priorités et pas d'autres considérations. Pour le personnel, vous avez aussi beaucoup de dispositions qui protègent ce personnel médical, qui lui donnera un accès privilégié dans certains endroits. S'il est arrêté, il ne doit pas être puni pour des actes médicaux, et il doit pouvoir continuer à servir dans des fonctions médicales. Donc là, ce sont les services médicaux des armées, en l'occurrence. Les unités médicales et les établissements sont également protégés. Il y a évidemment là, on peut donner des détails, des règles par rapport à l'emblématisation, qu'est-ce qui est considéré comme une structure ou non, mais disons, le principe est quand même, en situation de conflit, de marquer les différentes structures, et ce marquage devrait les protéger. Il y a même eu, dans certains cas, la possibilité de créer des zones de sécurité qui va au-delà de l'infrastructure même, qui peut englober un territoire autour. Donc, il y a quelques cas où ça s'est fait, pas beaucoup, mais il y a quelques cas où il y a eu vraiment ces zones de sécurité. Et il y a également une protection qui est donnée aux bateaux, aux avions de transport médicaux. Il y a également des obligations dans la base légale, donc il n'y a pas que des droits et des protections. La base légale contient aussi un certain nombre de normes qui vont sur les devoirs du personnel médical. Le premier, en fait, est assez évident, c'est que si le personnel médical participe lui-même directement aux violences et aux hostilités, il perd sa protection dont il jouit. Donc, vous ne pouvez pas, pendant 2 heures, aller combattre et l'heure d'après, aller soigner quelqu'un et dire, pendant que je combats, je suis immune de toute attaque. Il y a évidemment des règles par rapport à l'usage des emblèmes protecteurs. Il y a un droit de porter certaines armes légères, pistolet, mais pas de porter des armes d'attaque offensive. Donc, si vous voyez un médecin qui porte un RPG sur le dos, il y a effectivement un petit problème. Et puis, il y a effectivement quand même toute une partie du droit qui traite des conséquences. Il inclut des classifications de crimes de guerre pour pas mal d'actes dont on parle, et qui en théorie donc devraient avoir un niveau de traitement juridique assez élevé. Alors malheureusement, on le voit, c'est relativement peu le cas. Voilà, sur le projet lui-même, donc ça c'est un peu le constat, une base légale qui est relativement solide, une base légale qui fait part tant des droits et des devoirs du personnel médical, des infrastructures et transports, et un problème par contre dans la réalité, qui lui va s'aggravant, touche un peu l'ensemble des contextes dans lesquels on travaille, donc une différence assez grande entre ce qui devrait être et ce qui est. Alors, le projet, il cherche quelque part, vous avez le titre, de travailler sur la sécurité de l'accès à des soins de santé efficaces dans des situations de conflit et d'autres urgences, un titre assez vague, qui fait que le projet part dans beaucoup de directions simultanées. C'est le projet prioritaire du CICR pour la période 2011-2015. Donc c'est un projet qui dispose de certains moyens, effectivement, et pour lequel on va chercher aussi à créer des alliances avec toute une série d'autres acteurs. Ça, j'y reviendrai. L'idée étant, pour ce projet, les animations, c'est toujours très bien, mais... Voilà, parfait. Alors, ce graphique, en fait, il montre deux choses. Il montre que le projet, finalement, il a deux axes qui vont en parallèle. Un axe qui est un axe opérationnel, c'est-à-dire qu'on veut avoir en 2015-2016 un nombre de délégations du CICR et si possible avec localement des partenaires de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, Société Nationale, d'autres services de santé, des associations professionnelles de médecins, d'infirmières, etc., qui travaillent dans un pays donné par rapport au problème et l'analyse du problème dans le pays. Donc là, on sort d'analyse générale, on est vraiment d'une analyse contextuelle, et par rapport à l'analyse contextuelle, être capable de mettre en place des stratégies qui adressent dans le contexte ces problèmes. Et donc là, ça c'est pas nouveau, ça se fait déjà, mais on veut vraiment que ça se passe de manière plus systématique, plus approfondie, avec peut-être plus de ressources pour le faire, une volonté vraiment d'encourager les délégations du CICR, les sociétés nationales et d'autres acteurs dans leur contexte à bien comprendre quel est le problème et à essayer de travailler sur des solutions. Je donnerai après un ou deux exemples de choses qui se font concrètement aujourd'hui dans ce cadre-là. Mais là, il est clair qu'il y a vraiment une volonté que ça apporte un changement réel. La volonté du projet n'est pas que d'avoir des discussions, une mobilisation et puis une prise de conscience. Ça fait partie, mais on veut aussi avoir un impact dans les délégations. Et puis, il y a un autre volet du projet qui, lui, est plus global, cherche à mobiliser des acteurs autour de cette question, à sensibiliser, mobiliser les acteurs concernés, mais cherche aussi à avoir les pratiques, les outils, les bonnes pratiques des différents acteurs. Donc un échange vraiment entre tous les acteurs concernés, entre les experts, sur les mesures qui pourraient se prendre pour améliorer cette sécurité. Donc le constat est aussi, finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont pris des mesures dans leur propre chef. Et essayons un petit peu de capitaliser sur ce qui existe, sur ce savoir, d'échanger, de voir qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui peut être tiré comme leçon qui peut se globaliser, ou peut-être mettre quelques caviars dans quelle situation, quelle solution peut être utile, et partager ça dans l'ensemble du monde actif dans les soins de santé. Donc de nouveau, au-delà du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Donc on a toute une période en 2012 jusqu'à 2014 qui est marquée par des réunions d'experts. Il y en a pour l'instant eu trois, il y en a une à Londres, avec plutôt des acteurs du monde humanitaire de la santé. Ensuite, on a eu une réunion Oslo en décembre avec des sociétés nationales qui venaient de sexe contexte assez différents sur ce que les sociétés nationales peuvent faire. On a eu une réunion aussi en décembre en Égypte, plutôt sur les soins préhospitaliers, avec une série d'acteurs de santé, des associations médicales de plusieurs pays, pakistanaises, des gens travaillant en Syrie, un peu dans différents pays, venant avec leur expérience. Il y en a une la semaine prochaine à Téhéran, aussi nationale. Et puis on a encore toute une série, alors on viendra après au thème qu'on va aborder, vous verrez les thèmes sont assez divers dans ces conseils d'experts qui couvrent un peu les causes des différents problèmes qu'on voit. Et tout ça devrait nous amener en 2014 à des consultations avec certains gouvernements sur des mesures qui peuvent se prendre au niveau des autorités. Et voir un peu qu'est-ce qui est faisable, pas faisable, avoir un peu leur opinion pour finalement, en 2015, à la prochaine conférence internationale du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, où les États sont présents, présenter un peu le projet, ses conclusions et possiblement aussi voir ce que les États pourraient faire de leur côté. Donc vraiment ces deux axes, un axe opérationnel, contextuel et un axe global avec l'ensemble des acteurs concernés qui devraient déboucher sur des recommandations pratiques. Il ne s'agit pas de nouvelles lois, il s'agit vraiment de recommandations pratiques, de choses qui peuvent se faire pour améliorer la sécurité des soins de santé. Le tout est accompagné d'une campagne de communication assez importante. Donc on a, dès le départ du projet, insisté pour un volet communicationnel qui soit au niveau global sur la problématique. Alors malheureusement, pas vous montrer, on a un fil qui est assez parlant sur cette question. Soit au niveau opérationnel, donc dans les délégations qui mettent aussi en place leur propre communication par rapport aux problèmes qu'ils ont dans le pays. Alors, les thématiques que l'on traite dans différentes réunions d'experts, il y a, et ça aura lieu à Ottawa et en Afrique du Sud en fin d'année et début d'année prochaine, toute une série de réunions qui seront autour des questions de la sécurité des infrastructures de santé, et là ça passe des questions d'attaque sur l'approvisionnement, eau, électricité, médicaments, etc., jusqu'aux questions de gestion des pressions en termes de management de ces infrastructures face à des gens armés qui viennent, que ce soit des familles, que ce soit des groupes armés, que ce soit des autorités, face aussi à des questions de risque lorsque les précautions ne sont pas prises et qu'il y a des combats à proximité, qu'est-ce qui peut se faire? Est-ce qu'il y a quand même un certain nombre de mesures qui peuvent se prendre pour essayer de solidifier un petit peu ou de réduire les risques pour les infrastructures de santé? Il y aura aussi tout un thème qui est lié à la perspective venant des armées. Donc, une partie des questions, pas tout, mais une partie des questions est en lien avec des mesures que les armées pourraient prendre en termes de précautions dans les attaques, en termes de checkpoint, quelles sont les mesures qui pourraient se prendre pour garantir la sécurité, et donc le devoir des armées, et en même temps agiliser le passage des ambulances. Quelles mesures on peut envisager également lorsqu'il y a des opérations de fouilles dans les hôpitaux pour que ça se passe sans d'avoir de conséquences ni pour le personnel ni pour les patients. Donc il y a toute une série de questions à discuter avec les armées, avoir leur perspective et voir, et ça c'est une consultation qui a lieu au niveau mondial, une consultation pour voir comment est-ce qu'eux pourraient venir avec quelques points finalement qu'on pourrait, dans notre travail d'intégration du DIH au sein des forces armées dans le monde, mettre en avant. Il y a toute une question sur les législations nationales, puisque évidemment le cadre international est assez complet. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes souvent entre législation nationale et éthique médicale. Et là, vous n'avez pas besoin d'aller dans les conflits armés, vous pouvez regarder dans les pays alentours. Dans certains pays alentours, le fait de soigner quelqu'un qui est dans l'illégalité est en soi-même un défi. Est-ce que vous déclarez la personne ou pas, un migrant illégal, etc. Donc, On n'est pas obligé d'entrer dans les conflits pour voir que des fois, dans les législations nationales, hein, on a des défis par rapport à l'éthique médicale. Et évidemment, c'est amplifié dans des situations de conflit. Et là, il y a quand même des pratiques qui se mettent en place, qui réduisent les risques sur le personnel médical versus d'autres pratiques qui, eux, augmentent les risques. Les mesures que les sociétés nationales peuvent prendre. Et finalement, quelque chose d'assez important, c'est justement ces droits et obligations du personnel de santé. Je l'ai indiqué, le projet vise également à mobiliser toute une série d'acteurs. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un projet où c'est le CICR, voire l'Institut national, qui parle de ce qu'eux ils font et essaye de sécuriser le respect pour leurs activités. Il s'agit vraiment d'un projet dans lequel on veut parler de l'ensemble de l'accès aux services de santé. Et pour ce faire, évidemment, on essaie de faire des partenariats avec toute une série d'acteurs actifs dans le monde de la santé. Alors, on a déjà beaucoup de contacts, ils ont beaucoup participé dans différents événements et dans différentes réflexions avec l'Association médicale mondiale, avec également le British Medical Association, avec toute une série de sections nationales avec qui on développe des contacts, avec qui on co-organise des événements. Mais au-delà de ça, on essaie vraiment de voir comment est-ce qu'eux, dans leur réseau, finalement, peuvent faire passer un nombre de messages, comment est-ce qu'eux peuvent faire le relais, mais aussi peut-être eux informer un petit peu notre campagne, en disant, voilà, d'un point de vue de la profession médicale, voici aussi des éléments que vous devriez prendre en compte. Il y a évidemment aussi des ONG actives dans le domaine de la santé, MSF, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'MSF dans la salle. MSF, sur cette question, a pris la question assez au sérieux. Ils ont créé, ici dans le secrétariat international, un poste de coordination sur ce thème, avec un steering d'une bonne partie des sociétés nationales de MSF, leur section, qui travaillent également sur leur perspective de sécurisation des soins médicaux. D'autres ONG également sont en train de faire de même. Et finalement, au sein du mouvement, le but est également d'avoir à la fois des partenariats avec certaines sociétés nationales qui s'engagent assez fortement, également en termes de ressources à disposition, de recherche, de programmes qu'ils mettent en place, et au-delà de ça, un groupe de référence qui accompagne tout le projet et avec qui on travaille assez régulièrement. Donc il y a vraiment une volonté de mobiliser un peu l'ensemble de ces acteurs, pas pour qu'on aille tous la même stratégie, donc il ne s'agit pas d'avoir une stratégie unique qui regroupe tout le monde. Il s'agit de mobiliser les gens pour que chacun, dans le cadre de ses capacités, dans le cadre de son mode de fonctionnement, mette en place sa propre stratégie. Donc il n'y a pas un logo commun pour une campagne commune. Vous verrez que MSF aura ses propres communiqués de presse, sa propre campagne. Mais finalement, l'idée, c'est de dire, OK, on est plus efficace dans la diversité, mais on essaye tous d'aborder cette question de notre propre perspective, en fonction de nos propres activités qu'on peut mettre en œuvre. Quelques résultats concrets. Donc, malheureusement, on est à un stade du projet où à la fois on voit un nombre de situations catastrophiques. Je vais parler de ce qui s'est passé hier au Nigeria. Vous pouvez regarder les nouvelles, vous verrez plein d'autres pays où, à l'heure actuelle, il y a des attaques assez graves sur la mission médicale. Donc on est très loin d'une situation qui s'améliore. Maintenant, il y a quelques pays dans lesquels des mesures ont été prises assez intéressantes. Par exemple, la Colombie, qui vraiment tout récemment, c'est dans les dernières semaines, mais c'est le fruit d'un travail sur des longs mois, il y a eu un décret qui est sorti, le ministère de la Santé, qui renouvelle en fait un emblème protecteur qui est propre à la Colombie, qu'ils ont créé pour l'ensemble de la mission médicale, mais qui est accompagné également d'un texte sur les droits et devoirs du personnel médical, sur l'impartialité des soins, qui est vraiment un texte assez fabuleux, qui peut être une référence pour beaucoup d'autres gouvernements. Donc là, on voit un pays qui a vraiment, alors que 10-15 ans en arrière, il y avait des problèmes au niveau de la législation nationale et de l'action médicale, un pays qui a pris les devants, qui a vraiment travaillé sur la législation et qui aujourd'hui, je pense, a vraiment quelque chose d'assez modèle. Et au-delà de ça, a fait également une collection de données sur les incidents, a une vue d'ensemble, travaille très étroitement avec la Société nationale, la Croix-Rouge sur place, aussi pour faire des formations à l'ensemble du service médical sur ses droits et responsabilités, surtout dans les zones évidemment touchées par les violences. Un autre exemple assez récent, au mois de décembre l'année passée, au Yémen, le gouvernement a publiquement signé une déclaration sur le respect des soins de santé, respect au niveau personnel, transport et infrastructure, réaffirmant un peu les normes. Et ils ont fait ça dans une salle, alors là on le voit un petit peu, on voit quelques uniformes, mais disons, était présent l'ensemble des chefs des différentes forces armées du Yémen. Et quand on sait que c'était ces mêmes personnes qui, à Sanaa, se sont battues il y a 2 ans en arrière, avec une reconnaissance publique de problèmes qu'il y a eu. Donc on a eu le vice-ministre de la Santé, c'est le personnage qui est tout à gauche, là, a fait une déclaration sur les comptes du ministère par rapport aux dégâts à Sanaa, assez impressionnant, hein. Plus de 30 ambulances détruites, assez reconnaissance. La personne qui est debout, c'est la ministre des Affaires des Droits de l'Homme, celle qui a signé ce texte. Donc on voit là un certain engagement d'un pays qui pourtant a connu des problèmes et qui aujourd'hui essaye vraiment de les résoudre, en tout cas publiquement, d'amener sur la table ces problèmes. Alors, on verra ce que ça va donner, mais c'est une initiative tout à fait louable et tout à fait positive. Un autre résultat, on a, et ça on espère, alors à la fin du projet, être capable d'en avoir un petit peu plus, c'est vraiment des outils de travail pour le personnel de santé. On a une première brochure qui est sortie, qui est justement sur ces droits et responsabilités du personnel de santé, qui aborde toute une série de questions. Ça va de la transmission de données médicales, jusqu'aux questions de qu'est-ce que vous faites si vous êtes témoin d'atrocité, ou que vous soignez quelqu'un qui a été torturé, ou d'autres situations dans lesquelles, en tant que médecin, vous pouvez avoir accès à certaines informations par rapport à des problèmes, quelle est votre responsabilité ou pas, les risques que ça peut encourir, mais les devoirs aussi qu'il y a. Donc toutes ces questions qui sont souvent assez difficiles sont traitées vraiment de manière assez pratique pour le personnel de santé. C'est quelque chose qu'on discute beaucoup justement avec l'Association mondiale médicale et avec d'autres acteurs, et qui maintenant est distribué à travers différents canaux. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à en savoir plus, il y a un site public, qui s'appelle healthcareindanger.org, qui regroupe toute une série de documents publics, aussi de nouvelles, de petites vidéos sur différents pays, sur les questions de soins de santé. Donc vraiment un site qui essaye d'avoir une information sur le projet et la problématique. Et à l'intérieur de ce site, il y a un sous-site, alors qui lui est plus réservé. Il faut être invité pour y aller, mais l'invitation est assez large, qui est pour tous les professionnels de la santé partenaires de ce projet qu'on invite, pour que justement les expériences positives puissent s'échanger, des exemples comme ce décret colombien puisse être mis à disposition, ou dans d'autres pays on puisse le voir. Donc une volonté vraiment d'essayer de partager toutes ces expériences positives entre les acteurs de la santé. Donc on a créé un site qui lui sera opérationnel fin mars pour l'ensemble des acteurs de la santé, ONG et autres. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire en s'adressant à l'Académie, alors? Je pense que l'Académie a un rôle à jouer également. Premièrement, évidemment, de parler, de donner des forats pour parler de cette problématique. Mais au-delà de ça, comme j'ai indiqué, il y a un manque de recherche chronique sur ce domaine. Donc là, évidemment, on serait assez intéressé que les académies, soit de médecine, soit travaillant sur les questions de droit humanitaire, s'intéressent à cette question. Regarde un peu plus près les conséquences de la violence sur les services de santé. Et on pense que là, il y a vraiment un champ assez important à investir. Voilà, j'en ai fini avec la présentation formelle. Mais je vous propose de passer aux questions. Peut-être juste pour les questions. Vous connaissez tous le CICR. Évidemment, des questions liées à des pays particuliers auxquels j'aurais du mal à répondre. Donc, essayez de garder les questions plutôt liées en général et pas sur tel ou tel pays, ou tel acteur armé, essayer de garder un niveau plus global.
Restez. Merci beaucoup pour cet survol vraiment fascinant. Maintenant, c'est le moment, si vous avez des questions, comme vous avez compris, plutôt au niveau général, ou peut-être très pointu, mais peut-être pas un grand discours sur un pays. Voilà, Monsieur le Président, merci.
Bon, j'aurais une question tout à l'heure, mais je voudrais partir avec 3 points. Un premier d'histoire, c'est très intéressant de voir que Palachano, qui opérait comme médecin dans les années 850 dans le royaume des deux Siciles, a été emprisonné parce que il soignait les blessés de l'un et de l'autre côté. Alors c'était le début d'une motivation, après il a écrit des livres comme ça. Deuxième anecdote, alors ça, le futur président du CICR s'est trouvé au Salvador pour voir un peu la situation, et une déléguée du Obval s'est occupée de lui. Alors, on était en train d'aller sur le terrain, et tout à coup, elle reçoit un téléphone, un message radio. Elle me dit, Monsieur le Président, attachez-vous bien, j'ai plus de temps pour vous. Alors, on lui avait signalé qu'il y avait une ambulance qui était bloquée à un passage entre les deux lignes, lorsqu'il y avait un accord qu'il pouvait passer pour aller à l'hôpital. Alors, cette femme, jeune femme, avec un courage extraordinaire, n'est pas allée chercher l'ambulance, mais chercher le général qui pouvait libérer la chose. Et j'étais très impressionné. Après 20 minutes de recherche dans les différents endroits, elle l'a trouvé, elle lui a bloqué la route, elle s'est mise debout, elle lui a dit « Tu as la responsabilité d'immédiatement débloquer cette ambulance. » C'est très intéressant de voir comment la déléguée était consciente de ce problème de santé. La dernière chose, elle est très actuelle. Je suis en train de lire un livre sur le Liban d'une ancienne Croix-Rouge libanaise, et maintenant elle a été déléguée du CICR, et qui décrit dans tous les détails les problèmes qui étaient dans les années 70 à cause des réfugiés palestiniens. Et c'est très intéressant de comment ils se sont occupés des blessés. Maintenant, je viens avec ma question. Au fond, il faudrait toujours aller à la source de tous ces problèmes. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de perte de crédibilité pour tout ce qui est l'action médicale, soit du CICR, soit des sociétés nationales, soit d'autres institutions. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas tenu à ce qui, vous l'avez bien expliqué, qui est dans les lois, et on a découvert toutes sortes de choses. Alors je me demande si l'action ne devrait pas être surtout au début, c'est-à-dire de former tous les gens possibles de se tenir à cette mission médicale sans tricher. Parce que trop souvent, on entend des problèmes. Vous avez parlé de la Colombie qui va très bien maintenant. N'oubliez pas ce qui s'est passé il y a 3 ans lors de la libération de Madame Bettencourt avec l'utilisation par l'armée je ne sais pas, c'était l'emblème du CICR pour calmer les gens. Voilà, ça c'est ma question.
Là, je peux y répondre directement. Enfin, je pense qu'effectivement, vous mettez le doigt sur une partie importante du projet, où justement, on travaille aussi sur ces droits et obligations du personnel de santé. Donc, effectivement, dans les différentes sources de problèmes qu'on voit, il y a des questions liées aux législations nationales, il y a des questions liées aux opérations, à la manière de mener les opérations de la part de forces armées ou de la part de groupes armés. Il y a des questions liées à peut-être des mesures qu'on peut prendre, de protection physique, etc. Mais il y a aussi toute une partie qui est liée à ces droits et devoirs du personnel médical. Et ce n'est pas un mystère que la première publication qu'on a eue touche à ces questions-là, avec un travail avec l'association médicale. Maintenant, on est en train de discuter avec plusieurs associations sur comment, à partir de cette publication, essayer d'avoir des formations à distance pour le personnel médical. Et ça devrait passer à travers des associations de médecins, d'infirmières, etc. Et là, c'est une partie assez intéressante du projet, où finalement, pour toucher l'ensemble des acteurs de santé, ce n'est pas le réseau humanitaire traditionnel, c'est plus un réseau du monde de la santé qu'on essaye, auquel on essaye de travailler pour être sûr qu'effectivement, ces questions de droits et devoirs, d'impartialité, de non-discrimination passent de manière correcte. Maintenant, une partie des problèmes qu'il y a pu y avoir sont de nouveau liés à des questions de législation. Je travaille dans un contexte, sans le nommer, dans lequel la législation nationale obligeait le personnel de santé, non seulement à informer les autorités quand ils soignaient un blessé par balle, ou ça, c'est ce qu'on a dans tous les pays, mais les obligeait également à donner l'ensemble de l'information dont ils disposaient sur cette personne. Évidemment, si vous parlez de personnel local, qui vit dans un village, qui est au courant d'un peu tout ce qui se passe, à moins que le type il décide de rien écouter et de passer sa vie à voir personne, mais disons autrement, il va aussi savoir que celui qui passe de temps en temps sur cette camionnette, il s'appelle un tel, que c'est le numéro 2 hein, de ce groupe armé, etc. Il va y avoir un certain nombre d'informations que tout le monde dans la région a. Si un jour un combattant de ces groupes vient pour être soigné, la loi quelque part l'obligeait à donner des informations qui, au-delà de ce qui est normal, disons, l'information que ces groupes allaient considérer être une information de type militaire. Et là, ça provoquait le fait que certains médecins décidaient de faire des choses totalement illégalement, de partir dans la clandestinité, soigner quelqu'un pendant 3 jours, puis revenir après 3 jours, etc. D'autres, au contraire, jouaient le jeu de la loi. Et un choix ou l'autre faisait qu'ils étaient persécutés, soit par les autorités, soit par les groupes armés, soit par les groupes paramilitaires. Donc, on avait une situation dans laquelle la loi posait un dilemme à laquelle il n'y avait pas de réponse. Et ce qui donnait l'impression au groupe armé que finalement, il n'y avait pas vraiment une éthique médicale claire, que finalement, c'était une question de choix personnel, de gens qui sont plus ou moins sympathisants, etc. Donc, si vous êtes dans cette logique-là, et puis que vous avez en face de vous un médecin qui refuse de passer 3 jours avec vous pour aller dans la montagne soigner vos blessés, vous vous dites que le prochain, peut-être, il sera plus sympathique. Donc, vous faites partir celui-là, là, en le menaçant, etc. Bref, il va partir, et puis vous espérez que le prochain... Donc, il va faire tout un travail, quelque part, pour dire non, ce n'est pas une question... Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question d'éthique médicale. La loi doit permettre un travail conforme à l'éthique médicale. Et les groupes, les autorités, mais les médecins eux-mêmes, vous avez raison, les médecins eux-mêmes, le personnel médical lui-même, doit être conscient que l'éthique médicale est extrêmement importante, que si on y déroge, c'est là où il y a effectivement toute une série de suspicions, toute une série ensuite de problèmes qui vont venir. C'est une partie du problème, c'est pas tout. Il y a évidemment d'autres pays où la médecine médicale est attaquée directement, malgré le fait que les gens font un travail absolument extraordinaire, qu'il n'y a pas du tout de problématique au terme d'éthique médicale. Mais effectivement, une des causes que l'on essaye de capturer à travers ce projet est autour de ces questions de droit et devoir du personnel médical.
Merci. D'autres questions? Oui, au fond, monsieur.
Deux questions. D'une part, ça touche un peu l'éthique médicale aussi. La première question. À Guantanamo, il y a eu ce problème de l'implication des médecins, de certains médecins, des pratiques de torture. Alors, j'aimerais savoir si c'est certainement pas uniquement à Guantanamo, mais si ce type de problématique s'intègre dans les préoccupations de cette campagne, et si oui, comment est-ce que c'est traité? Et autre aspect, des acteurs importants de santé publique, tels que par exemple les ingénieurs sanitaires, qui ne sont pas proprement parlés des médecins, comment s'intègrent-ils aussi dans la protection que vous cherchez à garantir à ceux qui sont dans le réseau santé en conflit?
Pour la première question par rapport à la participation de médecins à des actes de torture ou autre, évidemment, quelque part, ça fait partie du projet, mais c'est quelque chose qu'on traite déjà à part le projet. Donc, on n'a pas, nous, repris dans le cadre du projet. Il y a déjà pas mal de gens au CICR qui travaillent sur ces questions depuis mal de temps, qui ont des contacts fréquents avec différentes associations médicales, des services médicaux de l'armée, notamment en Suisse, il y a toute une branche qui s'occupe des questions éthiques. Donc, c'est une question qui est déjà largement prise en compte, je dirais. Ça, c'est depuis quelques années, quand même, au cœur d'une réponse qu'on essaye de donner. Donc, il y avait... On n'a pas voulu, nous, quelque part, la récupérer dans le cadre du projet, puisque c'est déjà traité par le CICR comme une question en soi. La question des ingénieurs civils, oui, il y a un rôle, surtout lorsqu'on vient aux questions de sécurité des infrastructures, où, de nouveau, une partie de la réponse peut être effectivement liée à certaines... soit d'ingénierie de construction, soit de disposition interne, d'utilisation interne. On peut imaginer des scénarios dans lesquels, et ça vous l'avez tous vu à la télévision, à Gaza ou ailleurs, lorsqu'il y a des blessés, vous avez tout d'un coup ces blessés qui arrivent dans la structure de santé avec 15 caméras autour, avec 10 types en armes autour, avec la famille, et puis voilà, vous avez une sorte de, la structure se fait envahir par les gens, évidemment, ce qui ne rend pas les soins de santé très efficaces. Donc là, de créer une zone tampon dans laquelle finalement on peut accueillir ces gens qui viennent de l'extérieur, cette pression, parce qu'on doit quand même les laisser rentrer, sinon les médecins s'exposent à certains risques, donc les laisser rentrer, mais créer vraiment une zone tampon où les salles d'opération sont, elles, plus protégées, sont en deuxième lieu.
Alors que chez nous, si quelque part, vous avez dans les urgences, vous rentrez assez vite des urgences hein, à des salles de traitement. Là, vous pouvez imaginer, c'est un hôpital, on aille vraiment une zone tampon qu'on organise pour prendre ça. Donc, il y a des trucs, effectivement, qui peuvent sortir. Et c'est pour ça qu'on a envie de réunir, et ça sera les séminaires qu'on aura à Ottawa et en Afrique du Sud, on va réunir toutes sortes de spécialistes, que ce soit des spécialistes qui viennent du monde de l'architecture, que ce soit des gens qui ont une expérience de gestion de ces structures de santé, qui ont vécu 10, 15, 20 ans à gérer des hôpitaux en zone de conflit, hein, et qui peuvent donner un petit peu aussi leur truc. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont réussi à gérer ces structures pendant 15, 20 ans? Et essayer de prendre un peu ces leçons. Mais oui, clairement, il y a un rôle.
Oui, Elizabeth Rustic, Warner.
Moi, j'ai deux questions, merci. La première, c'est est-ce que vous allez étudier aussi la question de l'accompagnement militaire, d'un encadrement militaire des personnels de santé sur le terrain, qui est une tendance qui se répand de plus en plus. En Somalie, je crois que le CICR maintenant est accompagné via l'armée. Donc, est-ce que vous étudiez ça a une implication? C'est évident, au moment où les militaires, que ce soit une armée régulière ou pour armée, accompagne un convoi sanitaire, ça peut avoir une implication. Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, c'est que vous avez beaucoup parlé de la formation du droit et devoir du personnel de santé. Est-ce que vous allez aussi, alors est-ce que c'est à travers les législations nationales, mais parler des droits et devoirs de l'armée et des États? Vous avez cité la Colombie, qui utilise l'emblème de la... Enfin, dans l'armée, il a utilisé l'emblème de la Croix-Rouge. Vous avez eu la CIA qui, pour chercher Ben Laden, a fait passer quelqu'un pour un personnel de santé qui faisait de la vaccination contre la poliomyélite, puisqu'il y a après justement des incidences avec des assassinats d'autres personnels de santé faisant eux des campagnes de prévention de poliomyélite. Donc, est-ce que vous allez aussi, vous avez parlé que droit et devoir personnel de santé, mais est-ce que vous allez aussi, parce qu'il y a quand même sur le terrain, que ce soit par des armes irrégulières ou irrégulières, beaucoup de.
Ça, j'en ai parlé un petit peu. Donc, on a toute une consultation au niveau mondial qui a lieu en ce moment même avec un nombre assez important d'armées sur, j'ai signalé, des questions de fouilles et d'arrestations dans des structures de santé, des questions de checkpoint, des questions de précaution dans les attaques proches de centres de santé. Donc là, on a tout un travail qui se fait avec les armées pour essayer de voir un petit peu leur perspective et quelles sont des mesures qui, du point de vue des armées, hein, semblent être des mesures qu'on pourrait ensuite inciter d'autres États à prendre pour un meilleur respect de ces soins de santé. Donc là, oui, non, ça, c'est, peut-être que ce n'était pas très clair, mais il y a toute une partie hein, vise justement aussi à ce dialogue avec les forces armées pour essayer de voir quelles seraient des mesures positives qui pourraient se prendre. Et ça, donc c'est des consultations bilatérales qui ont lieu pour l'instant, qui auront ensuite, vont se répercuter dans un séminaire annuel où des hauts responsables des armées viennent chaque année parler du DIH à San Remo, donc on en a prévu d'avoir une session là-dessus, et on aura finalement tout un séminaire co-organisé avec le ministère de la Défense australien qui aura lieu en fin d'année à Sydney avec des spécialistes militaires pour reprendre un peu le résultat de ces consultations. Donc là, il y a vraiment tout un travail qui tourne là autour. Sur les accompagnements armés, ça se fait de moins en moins. Là, je veux dire, l'époque des accompagnements armés, c'était plutôt il y a 10 ans en arrière, 5-10 ans en arrière. Aujourd'hui, il y en a relativement peu. Ça existe encore, mais disons, c'est relativement peu. Il y a peu de gens aujourd'hui qui prônent ça comme une solution. Ce qui est différent que de dire que les armées ou les polices ont une responsabilité pour sécuriser des zones autour des hôpitaux de santé, ça évidemment. Hein. Donc ça, il y a une responsabilité des forces de sécurité dans n'importe quel pays au monde de sécuriser un peu les zones autour des soins de santé. Mais l'accompagnement au convoi, je dirais, ça existe encore, mais c'est de loin pas aujourd'hui ce que beaucoup de gens prônent. Même le CICR qui, effectivement, elle avait fait une ou deux fois, ça, on ne le fait plus depuis longtemps.
D'autres questions? Bon, je pense que il faut juste remercier de nouveau Pierre Gentil. va dévoiler la plaque d'or.